Bonjour, je suis Olivier Aymon. Dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle Odyssée, nous avons commencé à envisager un voyage humain vers Mars grâce aux connaissances que nous accumulons sur cette planète pas très accueillante. Alors l'homme sur place, oui, mais pour cela, il faut un moyen de transport. C'est très loin, c'est très dangereux. Alors peut-on envisager un voyage direct ou bien avec une étape qui se nommerait la Lune, un vaisseau vers Mars, moteur. Ah oui, avant cela, Mars pour vous.
Mars d'abord, c'est une planète, contrairement à la Lune qui est notre satellite, une planète qui a certainement été en tout ce qu'on appelle habitable, en tout cas il y a quelques milliards d'années. C'est ça l'intérêt majeur, en tout cas pour moi, de savoir si oui ou non, et si oui, sous quelle forme la vie a existé sur Mars, et peut-être encore qu'elle existe dans les bas-fonds de cette planète. Je m'appelle Didier Schmitt, je travaille à l'Agence spatiale européenne, et plus particulièrement dans la direction qui s'occupe de tout ce qui est exploration, soit du côté humain, soit du côté robotique. Et en particulier, je suis donc responsable du groupe qui est le groupe de stratégie et de coordination.
Mars, la nouvelle Odyssée, épisode 5, une fusée et des hommes.
Alors il faut déjà différencier fusée, vaisseau. Une fusée, c'est un lanceur, ça veut dire qu'on donne une impulsion à un vaisseau pour quitter une orbite terrestre, en tout cas pour aller en dehors des orbites qu'on connaît, hein, avec les satellites qui tournent autour de la Terre, il faut une vitesse de plus de 11,2 km par seconde. Et ensuite, évidemment, c'est la question du vaisseau, entre guillemets. Mais quand c'est humain, c'est un petit peu plus compliqué que quand c'est un robot.
Alors si on sépare les deux, la fusée, on l'a aujourd'hui à disposition, on a la puissance suffisante pour imaginer envoyer du coup un vaisseau, si tout part de la Terre. Puis ensuite, on verra si on peut trouver d'autres options, si on veut envoyer un équipage, disons, de 4 ou 6 hommes avec un grand H vers Mars.
Oui, alors effectivement, je pense qu'il y aura des hommes et des femmes. Alors déjà, ça c'est, je crois que déjà politiquement, entre guillemets, c'est déjà réglé. Ensuite, les fusées, est-ce qu'on les a ? Oui et non. Alors premièrement, prenons par exemple en Europe, hein, si on prend le successeur d'Ariane 5, donc à Ariane 6, Ariane 64, parce qu'avec la puissance maximale, avec 4 boosters, avec une fusée pareille, donc il fait quand même 850 tonnes, hein, au décollage. Eh bien, on arrive à mettre en orbite autour de la Lune 8,5 tonnes, c'est-à-dire on a un ratio de 100. Donc avec ça, vous n'allez pas très loin. Vous emmenez à manger pour aller vers Mars et revenir, c'est déjà pas mal. On arrive aussi avec cette même fusée donc, d'envoyer un rover, par exemple, ou d'autres missions de ce type-là, robotique. Mais au-delà, donc, il faut des charges beaucoup plus importantes, par exemple. La mission Apollo, et puis la mission Artemis à venir, il faut à peu près envoyer 50 tonnes autour de la Lune. Et pour envoyer 50 tonnes, là, il faut vraiment des gros lanceurs. Alors vous pouvez évidemment imaginer que vous faites ça en plusieurs fois, mais c'est un peu compliqué. Donc on fait des gros lanceurs. Donc le gros lanceur aujourd'hui, qui est en préparation, qui devrait faire son premier vol fin de cette année, c'est le SLS, donc le Space Launch System américain, qui est presque une copie du Saturn V des missions Apollo. Donc le SLS, le Space Launch System américain, il va faire 3000 tonnes au décollage. Donc la physique entre 1969 et 2021 n'a pas changé. C'est-à-dire pour mettre en orbite, comme je disais, 50 tonnes autour de la Lune, ben, il faut 3000 tonnes au décollage. C'est aussi simple que ça.
Alors on a le lanceur, globalement, on a le vaisseau.
Donc là, j'ai expliqué un petit peu ce qui se passait pour la Lune, parce que pour l'instant, on n'est pas allé plus loin.
C'est la première étape, 400 000 km, un peu moins. Si on va vers Mars, on compte en millions.
Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la station spatiale internationale, l'ISS, elle orbite donc autour de la Terre à 400 km. Et la Lune est à 400 000 km, donc il faut quand même aller 1000 fois plus loin, c'est pas rien. Surtout, il faut revenir aussi. Et ensuite, Mars, c'est un peu différent, puisque Mars, ça varie entre 60 et 70 millions de kilomètres au plus proche et près de 400 millions de kilomètres, donc 1000 fois plus loin que la Lune. Ce qui fait que, par exemple, revenir de la Lune, s'il y a un vraiment gros souci, c'est pas très compliqué. En quelques jours, on revient. De la station spatiale, en quelques heures, on revient. Pour revenir d'une mission martienne, il faut attendre que Mars veuille bien revenir orbiter autour du Soleil et avoir une nouvelle conjonction ou opposition avec la Terre. Ce qui fait que quand on part vers Mars, c'est 2 ans et demi ou rien. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça.
ce vaisseau, on l'a, on a une idée de ce à quoi il peut ressembler et des difficultés techniques qui y sont liées.
Mars, c'est vraiment un peu compliqué. Parce que premièrement, c'est pas juste aller vers Mars et orbiter autour de Mars, il faudra descendre et remonter pour faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs convois qui vont aller vers Mars. Vous pouvez donc prépositionner par exemple l'atterrisseur, qui n'est pas rien. L'atterrisseur, il fait quand même 75 tonnes hein, pour les études qui sont faites aujourd'hui. Ça veut dire que 2 ans avant, vous pouvez envoyer avec une propulsion électrique, vous avez le temps, bon, 10 mois, 12 mois, bon, pour aller vers Mars, et vous mettez en orbite donc l'atterrisseur. Et ensuite, il y a un autre convoi qui doit partir, là, effectivement, avec 4 personnes. Et ça, l'assemblage doit se faire en orbite, parce qu'avec une seule fusée, on ne peut pas le mettre en place. Donc là, il y a plusieurs lancements.
Qu'il faut envoyer comme un Lego.
C'est un Lego, effectivement, qui va s'assembler en orbite haute, la plus haute possible, donc autour de la Terre, pour avoir le maximum de vitesse, déjà, quand on va repartir. Et donc là, il faut déjà un habitat pour faire survivre, ben, comme j'ai dit, 2 ans et demi.
C'est ça, c'est que le vaisseau, non seulement c'est un moyen de transport, mais c'est aussi une cellule de vie.
Absolument. Et puis la cellule de vie, je veux dire, 2 ans et demi sans avoir aucune option de retour, donc il faut tout prévoir, ça va devenir compliqué. Hein, donc évidemment, on va prendre des risques, c'est normal. Hein, on ne va pas emmener un hôpital, par exemple. Il y a aussi le problème des radiations. Enfin bon, tout ça, ça devient un peu complexe. Et donc ce convoi partira, et la durée est environ entre 7 et 8 mois pour le voyage aller. Et là, ça devient compliqué du point de vue technique, parce qu'après, il faut que les équipages de ce convoi aillent dans l'autre convoi qui a le lander. Donc la capsule,
la cabine qui va permettre de descendre.
Alors pour descendre, aujourd'hui, quand on descend par exemple un rover comme ExoMars ou comme Perseverance, eh ben, on a plusieurs options, mais là, l'option principale aujourd'hui, c'est de déployer des énormes parachutes. Il faut savoir que l'atmosphère martienne est extrêmement fine, entre guillemets. Donc les parachutes
très peu freinées, en fait, c'est ça.
Très peu freinées, donc les parachutes sont énormes. C'est-à-dire le parachute, par exemple, pour ExoMars, il fait 35 mètres, le parachute principal, il y en a plusieurs, fait 35 mètres de diamètre, donc c'est pas rien.
Et on parle là d'un appareil qui doit déposer une tonne.
Voilà,
Perseverance, à peu près une
voilà, c'est ça. Alors évidemment, le parachute ne freine pas tout. Le parachute va freiner dans une certaine altitude. Et ensuite, il y a des rétrofusées extrêmement puissantes pour poser en douceur. Ce n'est pas le parachute qui va poser sur Mars, parce que ce n'est pas possible, il n'est pas assez grand. Alors ça, c'est pour des petits vaisseaux, entre guillemets, des petits systèmes de réentrée dans l'atmosphère martienne et de poser. Pour la partie humaine, c'est évidemment beaucoup plus important. Alors, on estime aujourd'hui effectivement à 75 tonnes le système qui va devoir rentrer dans l'atmosphère et se poser sur Mars.
Donc aujourd'hui à peu près une tonne, à l'avenir 75.
Absolument. Voilà. Et donc la grande différence évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors on ne peut pas faire des parachutes de 300 mètres de diamètre. Parce que d'abord c'est trop risqué, c'est trop compliqué, ça ne freine pas assez. Et donc ça veut dire qu'on aura des énormes rétrofusées. Donc atterrir sur la Lune, c'est déjà assez compliqué. Mais bon, la gravité étant de 16% de ce qu'elle est sur Terre, ça va. Sur Mars, on est à 38%. Donc ça devient compliqué. Donc là, il faut des gros réservoirs, etc. Et donc tout ça, ça surdimensionne tout le système.
Parce que des rétrofusées, c'est du carburant.
Absolument. Et après, il faut repartir. Et là, il faut aussi, évidemment, amener le carburant du retour. Parce que pour les premières missions, on ne va pas le fabriquer sur place.
Quand je vous écoute, ça semble jouable. Certains disent 2030, 2040, ce qui est à dire demain, hein, globalement. Quand je vous écoute, j'ai plutôt 2100 en tête comme ça. Pour des hommes, hein, pour des hommes.
Oui, oui. Alors, c'est assez curieux parce qu'effectivement, au tout début des années 50, hein, du siècle dernier, Von Braun avait imaginé effectivement tout le scénario martien. Il était obsédé par Mars, en fait, pas trop par la Lune. Et il s'est dit, en 1970, c'est sûr, on sera sur Mars. Donc, il a vraiment fait ses calculs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en 70 ? Ben, on a eu Apollo, avec un effort monstre du côté américain pour faire ce programme. Donc, on était loin d'être sur la Lune.
Donc, juste pour les auditeurs, Von Braun, ingénieur allemand, qui se fait connaître pendant l'Allemagne nazie et qui ensuite part aux États-Unis, ou est récupéré par les Américains. C'est ça, en gros, l'histoire.
Oui, alors effectivement, c'est le père, malheureusement, des fusées V2. Donc évidemment, lui, dans son esprit, c'était la science et la technologie. Alors il y a eu pas mal de controverses, évidemment, parce que ça s'est fait dans des circonstances un petit peu particulières pendant cet effort de guerre allemand. Les V2 sont quand même beaucoup tombés sur Londres. Voilà. Et ensuite, bon, il a été, après la guerre, il a été récupéré par les Américains. Et il est vraiment à l'origine des missions Apollo, donc
c'est l'un des pères du programme,
absolument. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que donc le 24 juillet 1969, donc Apollo 11 revient, et 10 jours après, le 4 août 69, Wernher von Braun planche devant une commission pour aller vers Mars. Et il leur explique vraiment dans le détail comment on peut aller sur Mars en 1982.
Qu'est-ce qui s'est passé
en 1980 En 80, on avait la navette américaine, donc vraiment un bijou de technologie. Et on démarrait les programmes pour une station permanente Mir, à l'époque, avec l'Union soviétique. Et donc, dans les années 80, on a eu la navette américaine qui faisait des allers-retours. Et on avait donc une présence permanente vers la fin des années 80 dans la station Mir du côté soviétique. Alors évidemment, avec le shuttle américain, avec la station Mir, etc., tout le monde s'est dit, bon, ben là on est bon, quoi. Si on fait ça ensemble, en 2000, on est sur Mars, c'est évident. Ben, où est-ce qu'on était en 2000 ? Ben, on commençait à assembler la station spatiale internationale. Et en 2000, on s'est dit, bon, avec tout cet effort international, on avait les Russes, les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Européens. Allez, si on fait un petit effort, en 2020, on est sur Mars. Alors nous sommes maintenant en 2021.
Et on est presque de retour sur la Lune.
On est en train donc de préparer, bon sérieusement évidemment, on est en train de fabriquer les éléments d'une station circumlunaire pour pouvoir atterrir et revenir de la Lune de façon relativement régulière fin de cette décennie, en tout cas à partir de 2025-26. Voilà.
Donc si je vous écoute, en 2025-2026, on se dit, oh bah ça y est, là on a réussi. 2040, on y est, on va à Mars.
C'est un petit peu ça, mais là c'est sûr.
Cette fois-ci, sûr et certain.
Non, alors pour être sérieux, effectivement, le nouveau facteur qui est vraiment très important, il s'appelle la Chine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec la Station spatiale internationale, les Américains ont neutralisé les Russes. Donc il n'y avait plus de compétition. Bah, quand il n'y a plus de compétition, on peut marcher, c'est pas la peine de courir. Maintenant, avec le facteur Chine, il est évident que les Américains commencent à se réveiller très sérieusement. Il est assez évident que ça va vraiment s'accélérer.
Alors, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, entre les deux, ouais, à peu près, géographiquement à peu près, l'Europe. Elle regarde d'un côté, elle regarde de l'autre.
Effectivement, on peut dire entre les deux l'Europe parce que nous sommes effectivement à un niveau, évidemment pas au niveau américain. Par contre, effectivement, nous sommes vraiment, vraiment très efficaces. On est partie prenante de la station spatiale. On a un astronaute tous les ans qui passe 6 mois, donc c'est pas rien. Et ça, c'est pas parce qu'on paye, ça c'est simplement parce qu'on contribue. On fait de la haute technologie, etc. Alors pour les programmes lunaires futurs, par exemple, on va être le partenaire majeur de la NASA pour tout ce qui retourne vers la Lune, avec donc la station orbitale circumlunaire qui s'appelle le Gateway, où on va mettre deux modules, un module d'habitation, ce qui est intéressant parce que pour aller vers Mars, il faudra un module d'habitation assez intéressant, et un module de télécommunication, de refueling, et pour voir en dehors de la station, donc avec des hublots sur 360 degrés.
Donc ça, c'est la participation européenne.
Donc ça, c'est la participation européenne. Les Japonais participent un petit peu, les Canadiens aussi avec un bras robotique, et les Russes, pour l'instant, pas du tout. Donc on est vraiment un partenaire, entre guillemets, vraiment privilégié avec les Américains, ce qui nous a permis, évidemment, de négocier, par exemple, des vols d'astronautes européens. Et on aura donc 3 astronautes européens qui voleront dans le Gateway, donc autour de la Lune, à partir de 2025-26.
Et les Chinois, de leur côté, ils font aussi une station ?
Alors, les Chinois ont beaucoup de velléités. Ils ont des plans presque similaires aux plans américains. Effectivement, alors, on connaît beaucoup moins. On a des informations, mais pas énormément. Mais on sait très bien que évidemment la course est partie. Ils veulent être donc sur la Lune, ça c'est certain. Ils vont avoir une douzaine de vols dans les 2-3 prochaines années et ils auront leur propre station spatiale avec 4 Chinois à bord d'ici 2 ans.
Donc, d'ici la fin de la décennie, on a une station spatiale internationale qui est la plus proche de la Terre, 400 km. On a à peu près au même endroit, du coup, ou un peu plus haut, une station chinoise. Et puis, on a proche de la Lune, la station américano-européenne. Tout ça, c'est la Lune, mais on parle de Mars aujourd'hui. Donc, est-ce que du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, la Lune est une étape ?
Est-ce qu'on passe par la Lune ou pas ? C'est une très bonne question. Pas forcément. On peut soit assembler autour de la Terre et partir, soit assembler autour de la Lune et partir au niveau de la Lune. Ce qui est intéressant, c'est que si on est autour de la Lune, on a de l'eau sur la Lune, c'est une certitude. Si on l'électrolyse, on fait de l'oxygène et l'hydrogène, on peut mettre ça dans des réservoirs, le mettre en orbite, et donc on a déjà, voilà, un carburant moins cher. Voilà. Pour moi, l'option circumlunaire est quand même beaucoup plus intéressante, parce que dans ce cas, si on assemble le vaisseau autour de la Lune, donc en orbite par exemple, en faisant même des dérivés de la station Gateway actuelle, ça nous permettrait par exemple de mettre un équipage dedans de 4 personnes et on les enferme là-dedans pendant un an, on regarde si tout fonctionne bien, etc. Si ça marche, on va les ramener les 4, on va en mettre 4 nouveaux et puis là on va partir parce qu'on a validé le système. On pourrait imaginer la même chose en orbite très élevée autour de la Terre, mais c'est bien de le faire de façon très éloignée de la Terre parce que là on est obligé d'avoir des systèmes qui fonctionnent vraiment très bien parce qu'encore une fois il n'est pas question de revenir d'une mission martienne du jour au lendemain.
Aujourd'hui le voyage c'est 500 jours, est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite ?
Alors réduire le voyage c'est effectivement, alors il y a deux choses qu'il faut regarder. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de rotation de Mars autour du Soleil et la vitesse de la Terre autour du Soleil. Ça veut dire que quand on démarre de la Terre, on démarre à un moment bien précis. Et on le fait que tous les 22 mois, parce que c'est là qu'il y a cette opposition.
C'est le moment où la route est optime.
Voilà. Pour aller vers Mars, on est entre 6 et 9 mois. 6 mois, c'est vraiment très, très optimal. Hein. C'est plutôt vers les 7 mois et demi en moyenne pour aller vers Mars et 7 mois et demi pour revenir. Mais entre ces 7 mois et demi d'aller et de retour, vous devez rester obligatoirement 15 mois sur place. On ne peut pas faire un shortcut et on ne peut pas revenir par le Soleil. Hein. Vous pouvez avoir augmenté la puissance pour aller vers Mars. Ça veut dire par exemple des réacteurs il faut de l'énergie, donc un réacteur, mini-réacteur nucléaire à fission. C'est possible, techniquement, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Les Américains ont travaillé dessus dans les années 70, c'est tout à fait faisable. Et donc là, vous allez plus vite, mais vous gagnez quoi ? Vous gagnez 3 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ça reste quand même dans les 5 mois, entre 5 et 6 mois. Donc gagnez un peu. Alors est-ce que c'est important ou pas ? C'est pas encore aussi évident que ça. Si on parle d'énergie et de réacteurs nucléaires, il en faudra de toute façon. Pour survivre sur la Lune pendant les 14 jours où on n'a pas de soleil, hein, puisque c'est ça les alternances sur la Lune, c'est 14 jours et 14 jours, on est à moins 150 degrés au minimum, donc il faut de l'énergie.
Hein.
C'est pas avec 3 piles à combustible qu'on va survivre. Donc ce qu'on appelle dans le jargon du trade-off, c'est-à-dire on essaye de voir qu'est-ce qu'on prend comme risque technologique et quels sont les bénéfices. Est-ce qu'on reste avec une propulsion entre guillemets à l'ancienne ? Est-ce qu'on prend des risques technologiques, mais dans ce cas on prend des risques pour les humains ? Tout ça, c'est pas aussi évident que ça.
Aujourd'hui, on n'a pas accepté équipage de se poser sur un réacteur nucléaire. Enfin, de décoller avec un réacteur nucléaire.
Alors, le réacteur nucléaire décollerait pas avec l'équipage.
D'accord.
Je vous rassure. Donc, on va pas mettre une bombe sale, entre guillemets, avec des bonhommes dessus. On va jamais faire voler en même temps des équipages et du gros matériel.
Donc, si je vous comprends bien, on peut optimiser un petit peu la durée de voyage, mais il y a un temps incompressible, finalement. Ça vaut le coup d'y aller, finalement ?
Je pense que ça vaut le coup d'y aller, parce qu'avec des hommes sur place, on va faire quand même 10 à 100 fois mieux qu'avec des robots. Parce que on va faire des analyses sur place, on va réfléchir, on va avoir des résultats. Le lendemain, on va faire d'autres expériences parce qu'on vient d'avoir les résultats le jour même sur quelque chose, etc. Donc, ce sera beaucoup plus dynamique. Une mission robotique, 99% du temps, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est terminé. Vous n'avez pas quelqu'un, un mécano sur place, qui dit tiens, ça, j'avais pas prévu, tiens, on va changer, on va prendre la clé de 8 et on va remplacer quelque chose. Non, voilà. Donc, avec des hommes sur place, évidemment, on va être 10 fois, 100 fois plus efficace. Et là, franchement, on peut vraiment espérer de trouver les traces de vie dont on parlait en début de l'émission. Et c'est quand même ça le facteur essentiel, c'est la partie scientifique. Sachant que Mars est vraiment une planète sœur de la Terre, elle a évolué plus rapidement que la Terre. Et donc c'est intéressant de faire ce qu'on appelle la planétologie comparée. C'est-à-dire qu'en fait, Mars, c'est, entre guillemets, c'est un changement climatique accéléré, tout simplement. Hein, parce qu'au début, il y avait des océans, il y avait de l'atmosphère, il y avait donc obligatoirement, très probablement, de la vie. Et ensuite, ça s'est accéléré. La tectonique s'est arrêtée, il y avait moins de volcans, et donc gravité moindre. L'atmosphère est partie avec les vents solaires au fur et à mesure, l'eau s'est évaporée et partie, et donc ça nous donne un désert immense et intéressant, parce qu'évidemment, il y a quand même des traces qui sont restées de ces époques-là, et c'est ça qu'on recherche.
Donc le jeu en vaut la chandelle, même si la chandelle est un peu compliquée à construire, et un peu grosse.
Je pense que c'est justement parce que c'est compliqué que c'est passionnant.
C'est intéressant.
Si ça ne l'était pas, on ne serait peut-être pas là en train d'en parler.
Merci à vous.
Merci à vous.
Nous avons donc passé en revue l'aspect technique de ce voyage des hommes vers Mars. Reste à ausculter le voyageur. Ce sera dans le prochain épisode de Mars, la nouvelle Odyssée.